France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le dépeceur de Mons entre haine et trouille. Au printemps 1997, 12 sacs poubelles contenant une trentaine de fragments humains sont retrouvés disséminés dans la périphérie de Mons, en Belgique. Très vite, les policiers découvrent que ces membres appartiennent à trois femmes disparues à des moments différents. Trois femmes qui toutes fréquentaient le quartier de la gare. Alors bientôt, un vent de panique souffle sur la ville. D'autant que l'assassin poursuit son jeu de piste sordide. À l'automne, le nombre des victimes passe à 5. Face à l'horreur, la presse baptise l'énigmatique criminel d'un nom qui marque les esprits, les dépeceurs de Mons. Aujourd'hui encore, dans cette ville tranquille où coulent deux rivières appelées la haine et la trouille, ça ne s'invente pas, ils sont encore nombreux à se demander pourquoi on n'a jamais rattrapé ce dépeceur. Notre invité aujourd'hui, Morgane Van Herberg, autrice de « Il est moins 5 », livre enquête coécrit avec Dany Corlana, paru en 2022 aux éditions Nombre 7. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Guillaume Malandras, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
C'est un policier à cheval qui a fait la macabre découverte en début d'après-midi.
Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable.
Assez rapidement, on se rend compte que là, on se retrouve avec trois victimes.
Pour vous, on est bien face à un tueur en série parce que la découpe des corps est identique et apparemment les sacs auraient été posés par une seule et même personne.
Oui, nous pouvons, avec presque certitude, dire qu'il s'agit du même auteur.
Le chemin de l'inquiétude, la haine, le chemin du dépôt. De toute évidence, le dépeceur semble avoir imaginé un jeu de pistes sordide.
Samedi 22 mars 1997, 7h, Mons, Belgique. Dans la pénombre, les sabots d'un cheval claquent sur les pavés humides de la rue Émile Van der Velden. À petite allure, l'animal moyen de locomotion traverse la brume matinale avec une tranquillité rassurante. Son cavalier, c'est Olivier Motte. Comme tous les matins, ce fonctionnaire de la police montée d'à peine 30 ans se rend au commissariat central où il doit prendre son service. Situé à 2 km du centre de Mons, il traverse le quartier de Couëm, semblable à tant d'autres en Belgique. Une enfilade rectiligne de petites maisons en briques rouges, ponctuée de quelques commerces essentiels, bistrots, épiceries, pharmacies. Après quelques dizaines de mètres, le policier et sa monture arrivent au niveau d'un pont qui enjambe la voie ferrée. Ici, les bâtiments laissent place à une zone, disons, tampon. Une pente qui s'accentue, le bas-côté envahi par des ronces, des bonbonnes de gaz ou des tas de pneus. Mais soudain, le regard des cavaliers est attiré par une forme mouvante, là, en contrebas de la chaussée. Un petit chat qui grignote des restes sortis d'un des nombreux sacs poubelles qui gisent sur l'herbe. Bon, un chat qui fouille les déchets, c'est assez banal. Mais le policier s'approche quand même. Et en une seconde, il comprend. Derrière ce petit tableau pittoresque se cache une scène d'horreur. Enserrée dans les mâchoires du chat se trouve une main humaine. Sans réfléchir, le cavalier assermenté pose un pied à terre, enjambe le rail de sécurité, puis fait fuir le chat. Le regard aux aguets, il descend doucement dans le fossé. En tout, ce sont 8 sacs poubelles qui lui font face, avec au milieu la main abandonnée. Vu la morphologie, on dirait une main de femme. Mais ce n'est pas tout. Dans le sac à côté, le policier trouve un morceau de jambe, puis un pied. Le cœur au bord des lèvres, les genoux flageolants, Olivier Motte prévient aussitôt ses collègues. Quelques minutes plus tard, branle-bas de combat, une armada de fourgonnettes de police débarque, et avec elle, les premiers journalistes.
C'est un policier à cheval qui a fait la macabre découverte en début d'après-midi. 8 sacs poubelles avaient été jetés dans un fossé à la rue Van der Velde à Couëm, à proximité du pont du chemin de fer. Ces sacs contenaient uniquement les membres de 3 cadavres, probablement 3 femmes. Élément troublant, les enquêteurs ont trouvé les mots « la mort » inscrits en collant rouge à proximité des sacs.
Face au caractère exceptionnel du crime, le procureur du roi, Pierre Honoré, lui aussi a fait le déplacement. Devant lui, la chorégraphie silencieuse de la police scientifique se met en place. Techniciens d'identité, photographes, légistes, les experts prennent possession des lieux. En bas du fossé, agenouillé dans l'herbe, l'un d'entre eux desserre l'ouverture du sac. Et une odeur nauséabonde s'immisce un peu partout, et le procureur vacille. À ses côtés, raide comme une lance, le flegmatique commissaire chargé de l'enquête, Guy Martin, est sidéré. Parce que cette scène dépasse l'entendement. Un enchevêtrement de bras et de jambes sectionnés à des stades de putréfaction différents appartenant à au moins trois victimes. C'est un véritable puzzle corporel, comme Guy Martin l'explique au micro des RTBF.
À ce moment-là, on est obligé de reconstituer le pulse des parties corporelles. Comprenez ? Et assez rapidement, on se rend compte que là, on se retrouve avec trois victimes, avec des degrés de putréfaction différents, quoi. On se rend compte qu'on a des degrés de putréfaction très avancés, moins avancés et vraiment proches. Donc là, on se dit, bon, on a affaire à quand même à trois victimes. Supputation, évidemment, hein, supputation.
Après analyse de la végétation sur le site, il semble que deux des huit sacs ont été déposés des mois auparavant, avant le début de l'hiver. L'auteur serait donc retourné sur les lieux au moins une fois, peut-être deux. Sa dernière visite, elle, semble récente. Quelques jours, tout au plus. Autre détail important, certains sacs poubelles portent l'inscription d'une commune flamande située à 200 km de là, Knokheist. Alors, faut-il chercher du côté de cette tranquille station balnéaire ? Le visage fermé, le commissaire Martin laisse échapper un soupir. Si l'auteur des crimes est revenu plusieurs fois sur place, pense-t-il, il a pris des risques énormes. Mais pourquoi faire ? Pourquoi déposer ses victimes et les jeter dans l'espace public après tout ? Les meurtriers qui découpent des corps le font généralement pour s'en débarrasser plus facilement, pas pour les exhiber de la sorte. À moins que l'assassin ait voulu faire passer un message. En tout cas, certains enquêteurs affichent des mines perplexes. Cette scène ressemble étrangement à une affaire non résolue qui a secoué la ville il y a quelques mois. C'était le 30 juillet dernier. À quelques kilomètres d'ici, un torse de femme avait été repêché dans une rivière appelée la Haine. Le nom de la victime, Martine Bone, une Française de 40 ans disparue quelques jours auparavant. Et aujourd'hui, 8 mois plus tard, les gendarmes se demandent si le reste de son corps a été retrouvé. Au commissariat de Mons, une poignée d'enquêteurs épluche le fichier des personnes disparues. Après Martine Bone en juillet, une autre disparition les interpelle. Celle de Jacqueline Leclerc, une jeune mère de 33 ans, vue pour la dernière fois mi-décembre, soit 4 mois plus tôt.
Et la première chose pour nous, c'est identifier. Identifier, identifier, identifier. Parce que là, vous ne partez de rien. Il faut laisser aux experts le soin de pratiquer leur art. De nous dire homme, femme, essayer de voir. Ensuite, nous recueillir les personnes disparues, comparer au niveau des ADN, comparer aussi au niveau de certaines particularités physiques et que sais-je et autres. On a activé tout le monde pour savoir toutes les personnes qui ont disparu. Évidemment, on est tout de suite tombé sur Jacqueline.
Les paquets contiennent-ils les restes de Martine Bonnet, de Jacqueline Leclerc et surtout, qui est la troisième victime ? Pour en savoir plus, les sacs sont transportés à l'Institut médico-légal de Liège. Sur une table de la chambre froide, le médecin légiste les ouvre soigneusement avant d'inspecter chaque fragment. Premier constat, les corps sont loin d'être complets. Parmi la dizaine d'éléments, il n'y a aucune tête, ni aucun tronc. Seuls sont présents des bras, des jambes, des mains, des pieds. Pour établir de façon précise une chronologie, un entomologiste est appelé en renfort. Après analyse des insectes et des larves retrouvées dans les sacs, il confirme les hypothèses établies sur place. Les trois victimes sont bien mortes à trois moments distincts. La première 8 mois auparavant, la deuxième en décembre, et la dernière à peine quelques jours plus tôt. Autrement dit, il est fort probable que deux des victimes soient Martine Bone et Jacqueline Leclerc. Les yeux vissés sur son microscope, le médecin légiste remarque un autre détail important. Les découpes sont à la fois précises et franches. Cela signifie non seulement que l'auteur n'a pas hésité, mais aussi qu'il dispose de solides connaissances en anatomie. Peut-être un médecin, un vétérinaire du terrain, un chirurgien ou même un boucher. En tout cas, ce criminel sait comment dépecer un corps. Et vu l'assurance dont il a fait preuve, il est possible qu'il n'en soit pas à son coup d'essai. Assis dans un coin de la pièce, le procureur du roi, Pierre-Honoré, reste quoi ? Des cadavres sans tronc-ni-tête, des meurtres espacés dans le temps, aucune scène de crime et un tueur méthodique qui arpente les faubourgs. De mémoire de magistrat belge, on n'avait jamais vu ça. Après avoir repris ses esprits, le magistrat quitte le labo et retourne à Mons où il doit tenir une première conférence de presse. Quand il pénètre dans la salle du tribunal, un peu avant 22h, une trentaine de journalistes le dévisagent. Fébrile, il leur lance une formule laconique. « Vous allez regretter d'être venu. » Face à une forêt de micros et de caméras, il égrène alors les détails de l'affaire.
Les cadavres ont été découpés avec une précision remarquable. Manifestement, à la scie qui, d'après nos premières informations, ne serait pas circulaire, mais une scie horizontale. Au moins deux de ces sacs étaient là avant la fin de l'hiver, compte tenu de la qualité de l'herbe, de la végétation qui se trouve en dessous.
Le lendemain matin, dimanche 23 mars, le commissaire Guy Martin réunit ses hommes. Deux missions les attendent. Avancer sur l'identification des victimes, bien sûr, mais aussi ratisser les environs. Dès le lever du soleil, un hélicoptère de la gendarmerie muni d'une caméra infrarouge survole la zone. En surface, une cinquantaine d'hommes sont mobilisés. Policiers à cheval et à vélo, brigades cynophiles. Consciencieusement, tous patrouillent dans les faubourgs et recueillent les témoignages des riverains. Mons est en état de siège. Et bientôt, l'horreur monte d'un cran. À quelques mètres de la voie ferrée, toujours rue Émile Van Der Velde, un neuvième sac est découvert. Celui-là contient un morceau de jambe et de bras appartenant à l'une des trois victimes, celle qui n'a pas encore été identifiée. Pour les enquêteurs, le mystère s'épaissit. Le sac a-t-il été déposé en même temps que les autres ? Ou bien le tueur s'amuse-t-il à disséminer petit à petit les pièces de son puzzle macabre ? Quoi qu'il en soit, avec cette nouvelle découverte, un jeu de pistes pervers débute et l'affaire traverse les frontières. Des journalistes venus d'un peu partout investissent les hôtels de la ville. Un surnom est même trouvé pour désigner l'assassin, une expression qui marque les esprits, le dépeceur de Mons.
Il est à présent certain que le dépeceur de Mons a fait trois victimes. La première est Martine Beaune, disparue en juillet 96. Son tronc mutilé a été retrouvé dans la Haine quelques semaines plus tard. Ce sont les membres de la jeune femme qui ont notamment été retrouvés à Couem. Il est aussi certain que les sacs poubelles déposés rue Van der Velde l'ont été à des moments différents. Les restes de Martine Beaune s'y trouvaient sans doute depuis plusieurs mois.
Le lendemain, le lundi 24 mars à 10h du matin, bis repetita. À l'ouest de la ville, derrière la gare, un dépanneur découvre encore un paquet. Compact, bien ficelé, il gît en bordure d'un terrain vague balayé par le vent, au milieu d'une petite rue au nom évocateur, chemin de l'inquiétude. Alertés, policiers et magistrats fondent sur les lieux. Dès leur arrivée, un premier élément leur saute aux yeux. Sous le sac, la végétation semble intacte. Ça veut dire que le colis vient tout juste d'être déposé, sans doute la veille, peut-être même pendant la nuit. Drapé dans son imperméable, dossier d'enquête sous le bras, le commissaire Martin n'en revient pas. En bravant les dizaines de fonctionnaires qui ont fouillé les environs, l'assassin semble leur dire que jamais il ne sera rattrapé. C'est lui qui mène la danse, puissant, omniscient. Naturellement, le commissaire fait boucler le périmètre. Et bientôt, une cinquantaine d'enquêteurs quadrillent la zone. La ruelle ainsi que la rivière qui coule en contrebas, la Haine, sont passés au peigne fin. En vain, aucun autre sac n'est découvert. Évidemment, la nouvelle fait vite le tour de la ville. Et bientôt, un attroupement de badauds se forme derrière la rebalise. Quand il les aperçoit, le commissaire fronce les sourcils. Et si le tueur était là, parmi ces gens qui observent ? Heureusement, il n'a pas le temps de s'attarder sur cette hypothèse effrayante. À peine quelques minutes plus tard, de nombreux journalistes débarquent. Et une fois de plus, ils s'agglutinent autour du procureur du roi, Pierre Honoré, pour le harceler de questions.
Les médecins légistes sont arrivés. On n'ouvre pas, puisqu'il est très important de recueillir le liquide qui peut être à l'intérieur, etc. Donc on n'ouvre pas. Donc je ne sais pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un chien ni un chat. Et que c'est un gros morceau.
Une fois le relevé effectué et la scène figée, le procureur retourne à l'Institut médico-légal de Liège où le sac est soigneusement déballé. Et comme l'a prédit le magistrat, il s'agit bel et bien d'un gros morceau. Derrière les couches de plastique se trouve en effet un buste de femme sectionné au niveau des bras et du bassin. Après quelques analyses, le légiste affirme que le torse appartient à la victime non identifiée, celle dont la mort est la plus récente. Désormais à Mons, l'horreur est quotidienne. Silencieux, scotché sur sa chaise, le procureur est pris d'un vertige. En 3 jours, 10 sacs contenant les restes d'au moins 3 femmes ont été découverts. Face à ces chiffres, il faut se rendre à l'évidence. Le spectre du tueur en série plane sur la ville.
We suffer every day. What is it for? These crowns of illusion are fooling us all. And now I am weary and I feel like I do. It's only you who can tell me apart. And it's only you who can turn my wooden heart. The size of our fight, it's just a dream. We've crushed everything I can see in this morning. Selfishly, how we fail, and I feel like I do. It's only you who can tell me apart, and it's only you who can turn my wooden heart.
Now that we've chosen to take all we can, this shade of autumn will still bitter end. Years of frustration lay down side by side, and it's
écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dépeceur de Mons.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Pour vous, on est bien face à un tueur en série parce que la découpe des corps est identique et apparemment les sacs auraient été posés par une seule et même personne.
Oui, la découpe est identique, les similitudes sont relativement flagrantes. Nous pouvons, avec une presque certitude, dire qu'il s'agit du même auteur.
Alors, de par la nature de ce fait divers et son importance, on peut parler de première.
Oui, hélas, oui. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on retrouve un pareil dépôt de corps mutilés, coupés en Belgique.
Mons, lundi 24 mars 1997. Dans les bistrots de la ville, on ne parle plus que de lui. Lui, c'est celui qu'on appelle le dépeceur de Mons. Depuis 3 jours, cet énigmatique criminel disperse des sacs poubelles remplis de restes humains. Pour le moment, on dénombre 3 victimes. La paisible citadelle bourgeoise découvre à l'ombre de son beffroi et de son effroi une violence nouvelle, abominable et indicible.
Quand on entend que dans sa propre vie, on retrouve des cadavres, j'ai une très peur. Franchement, j'ai beaucoup peur de rentrer tout seul chez moi. Depuis qu'on a retrouvé les corps à Coim, je ne dors plus chez moi, je dors chez mes parents.
Ça fait plusieurs fois qu'on voit des gens qui jettent des sacs poubelles. Alors, il y a d'ici 2-3 jours, il y a une camionnette qui est venue vers 11h-10 le soir. Et alors, le type, comme il a vu mon mari qui allumait le phare, il s'est mis à courir et la camionnette, elle est partie assez vite aussi.
Oui, tout le monde se soupçonne et bientôt les rumeurs les plus folles commencent à circuler. Ainsi, les habitants croient voir des colis suspects partout. De la gare jusqu'au rempart, en passant par les faubourgs, les dépôts sauvages sont scrutés. Et le moindre sac plastique avachi sur le bas-côté provoque des dizaines de coups de fil de riverains paniqués. Même le ramassage des ordures fait l'objet de signalements. Les habitants de Mons et de toute la Belgique sont pétrifiés. Alors les médias parlent de psychose, comme ici sur la RTBF.
À Coim et à Mons, les fouilles sont terminées jusqu'à nouvel ordre, mais il n'est pas sûr qu'elles ne puissent pas reprendre. L'enquête continue bien sûr, et ce que l'on redoute surtout, c'est une psychose au sac poubelle. Plusieurs personnes ont en effet alerté les forces de l'ordre pour pas grand-chose. Un seul exemple, une dame a eu l'attention attirée par une vague chevelure châtain qui sortait d'un sac poubelle. Mais à l'intérieur du sac, on a découvert une chèvre en décomposition.
Il faut dire qu'en cette année 97, le plat pays se révèle à peine d'un immense traumatisme collectif, l'affaire Dutroux. C'était 2 ans plus tôt, en 95, avec ses crimes atroces, le pédocriminel de Charleroi a fait vaciller le royaume et ses institutions.
Quand la colère d'un pays s'exprime dans le plus grand calme, à Bruxelles aujourd'hui, l'incroyable mobilisation de la population en mémoire des enfants victimes du réseau Dutroux a constitué un véritable défi à la classe politique. Le Premier ministre ne s'y est d'ailleurs pas trompé en annonçant une révision de la Constitution. Joël-François Dumont.
Une marche blanche qui s'est vite transformée en une véritable marée humaine, comme on n'en avait pas vu à Bruxelles depuis la Libération. Aujourd'hui, le peuple belge était dans la rue.
Depuis ce fiasco judiciaire et policier, les autorités tentent de reconstruire leur image auprès de la population belge. Alors autant dire qu'à Mons, elles n'ont plus le droit à l'erreur. Ainsi, le juge d'instruction, Pierre Piette, met-il en place une cellule spéciale d'investigation. Baptisée Corpus, elle est confiée au commissaire Martin. Sous ses ordres, une cinquantaine d'enquêteurs commencent un travail de fourmi. Pourtant, au départ, les indices sont maigres. Mis à part les témoignages de quelques riverains et des sacs poubelles portant l'inscription de la commune de Knokhest, les experts de la PJ, franchement, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Malgré tout, des portraits robots de 6 hommes aperçus autour des lieux de dépôt sont dessinés. Imprimés en première page des journaux, ils se retrouvent placardés un peu partout dans le pays. Les Belges découvrent ainsi une série de Monsieur Tout-le-Monde sans signe distinctif. Et même si de nombreux coups de fil font sauter le standard de la police, les dizaines de vérifications qui suivent ne donnent rien. Quant à la piste des sacs venus de Knokke, là aussi c'est une impasse. Après quelques appels aux grossistes et aux fabricants, on apprend qu'ils viennent d'un lot de 200 unités qui étaient vendues dans un bazar de Mons, donc retour à la case départ. Pour avancer, les enquêteurs décident de se concentrer sur leur seule certitude, l'identité des victimes. D'ailleurs, les analyses ADN viennent tout juste de confirmer les 2 noms pressentis, Martine Beaune et Jacqueline Leclerc. Mais qui sont-elles? Après quelques entretiens avec leurs proches, on découvre que les 2 femmes ne se connaissaient pas, mais qu'elles partageaient plusieurs points communs. Un certain isolement social, des difficultés financières, mais aussi des habitudes dans l'un des endroits les plus malfamés de Mons, le quartier de la gare. L'un des enquêteurs, Bernard Fressineau, nous raconte au micro des RTBF.
En fait, il n'y a pas de lien entre les victimes, entre elles. Elles sont peut-être croisées, mais elles n'étaient pas amies, elles n'étaient pas proches. Bon, ce sont des dames qui ont souffert, évidemment, peut-être dans leur vie, qui étaient peut-être en décrochage, parfois psychologique, parfois un peu fragile. Peut-être en dépression. Donc évidemment que le quartier de la gare n'est pas un grand quartier, c'est pas énorme. Bon, c'est une petite ville. Donc les gens qui fréquentent un quartier peuvent se rencontrer par hasard. Il faut savoir aussi que certaines essayaient de trouver un peu de réconfort, hein, dans le quartier de la gare. Pourquoi? Parce que c'est le quartier où Les cafés fermaient plus tard à l'époque.
Le tueur a-t-il rencontré ses victimes autour de la gare ? Sur place, sous les néons des bars de nuit, entre les vitrines des prostituées et les hôtels bon marché, les policiers peinent à recueillir des indices. Les portes restent closes et les bouches cousues. Voilà. Des fausses pistes, un milieu interlope, une enquête qui s'enlise. Après 10 jours, les flics ne tiennent aucun suspect et la dernière des 3 victimes n'a toujours pas de nom. Mais le 12 avril au matin, 2 nouveaux sacs sont retrouvés au bord d'une petite voie qui longe la Haine, la rue du Dépôt. Une fois de plus, le procureur Honoré est en première ligne face aux journalistes.
Le premier sac contenait un pied et l'avant jambe, c'est-à-dire la partie située entre le genou et le dessus de la cheville. Le deuxième sac contenait une tête. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le découpage est du même type que les précédents.
Est-ce que c'est pas bizarre que le truand vous donne maintenant une tête, que ça, vous avez maintenant une possibilité d'identification ?
C'est bizarre, oui. C'est bizarre.
Alors, d'où vient cette tête ? Très vite, les enquêteurs découvrent qu'elle appartient à la dernière victime, celle dont on ne connaît toujours pas le nom. Dès lors, une question terrifiante se pose. Le tueur a-t-il voulu aider la police ? Et pourquoi ? Dans la soirée, le commissaire Martin convoque un portraitiste. Seul avec la tête de la victime et ses crayons, l'artiste passe une partie de la nuit à en faire le portrait. Publié dans la presse le lendemain, le dessin montre le visage endormi d'une jeune femme. Les yeux clos surmontés de fins sourcils, les pommettes saillantes et les cheveux clairs, elle semble apaisée, comme délivrée. Le résultat de la publication ne se fait pas attendre. Dans la matinée du 13 avril, une femme en panique appelle le commissariat. La voix chevrotante, elle assure avoir reconnu sa fille. Elle s'appelle Nathalie Godard, c'est une jeune femme de 22 ans, disparue 3 semaines plus tôt, le 16 mars, soit 10 jours à peine avant la découverte des premiers sacs poubelles. Comme Martine et Jacqueline, Nathalie est une habituée du quartier de la gare, en particulier d'un bistrot appelé Le Phare. Au micro des RTBF, Nanou, la patronne de l'établissement, nous dresse le portrait de la jeune femme entre errance et solitude.
Elle venait seule à l'époque ?
Elle venait avec sa copine.
Elle s'est mariée ?
Elle s'est mariée, elle m'avait même dit qu'elle ne s'entendait pas avec ses parents et c'est pour ça qu'elle s'était mariée. Elle a eu un enfant.
Elle vous parlait de son couple ?
Je crois qu'elle ne s'entendait pas avec son mari. C'est pour ça qu'elle l'a quitté assez tôt. Je crois même qu'elle l'a quitté, qu'elle était encore enceinte. Je ne me rappelle plus. Puis tout d'un coup, elle s'était mise à boire.
À boire beaucoup ?
Oui, boire beaucoup. Elle buvait beaucoup. Jusqu'à la fin. Jusqu'à sa fin. J'ai voulu l'aider à plusieurs reprises. Elle a toujours refusé.
Parmi les proches de Nathalie Godard, il y a un individu qui intéresse tout particulièrement les policiers. Un certain Léopold Bogart. Dernier compagnon connu de la victime, ce trentenaire au visage émacié qui se fait appeler le Gitan, ressemble étrangement à l'un des 6 portraits robots de suspects réalisés quelques jours plus tôt. Combinard et bagarreur, l'homme est loin d'être un enfant de cœur. Effectivement, couteau papillon fourré dans la poche, tatouage fait maison et chapeau de cow-boy, on croit savoir qu'il passe ses jours et ses nuits dans les bistrots du quartier de la gare. Après quelques pintes, il serait sujet à des accès de violence redoutables, dont Nathalie ferait régulièrement les frais. Plus intéressant encore, depuis la mi-mars, plus personne ne l'a vu. Le Gitan s'est comme évaporé. Qu'essaye-t-il de fuir au juste ? Quand les limiers de la PJ le localisent, dans une caravane entre Namur et Charleroi, première surprise, il a complètement changé d'apparence. Ses longs cheveux châtains sont coupés et son collier de barbe a disparu. Mais son premier interrogatoire n'arrange pas son cas. Entre désinvolture, contradiction et mensonge, Bogart a tout du coupable idéal. Et si c'était lui, le dépeceur de Mons ? Placé en détention, il clame son innocence. Pendant ce temps, les enquêteurs fouillent dans son passé. Hélas, il faut vite se rendre à l'évidence. Hormis un mode de vie chaotique et quelques bagarres, rien n'incrimine le Gitan. Sans éléments matériels, le juge décide donc de le libérer. À sa sortie de prison, l'homme est interrogé par une nuée de journalistes.
Monsieur Bogart,
de toute façon,
quel effet ça vous fait de retrouver la liberté?
Bien, parce qu'on met un innocent en prison. Donc.
Vous êtes écœuré de tout ce qui s'est passé?
Oui, en sens, oui.
Pourquoi on s'est attaqué?
Je vous dire, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer dans ma famille.
Pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté à un moment donné, à votre avis?
Parce que j'étais le dernier petit ami de Nathalie. Pour ça.
Et c'est comment vous l'avez vu la dernière fois?
Le 16.
Bientôt, l'enquête se retrouve à nouveau au point mort. Au sein de la cellule Corpus, mais aussi dans la presse, les hypothèses font place aux conjectures. Il y a notamment les noms de lieux qui interrogent. Évidemment, les rivières, la haine, la trouille, le chemin de l'inquiétude ou encore la rue du dépôt. Face à cette liste, on est tenté de se demander si l'assassin n'a pas choisi ces endroits à cause de leur nom, justement. En tout cas, pour de nombreux journalistes, c'est une évidence.
De toute évidence, le dépeceur semble avoir imaginé un jeu de pistes sordide. Les enquêteurs ont la certitude que tous les sacs n'ont pas été déposés le même jour, au cours d'une seule randonnée infernale. La presse a relevé des indices troublants, comme ces noms de lieux qui peuvent avoir une charge symbolique. Le chemin de l'inquiétude, la haine, le chemin du dépôt et la rue de Saint-Symphorien qui porte le nom d'un martyr décapité.
En réalité, cette idée fait bien plus saliver la presse que la cellule d'enquête. Pour les fonctionnaires, que l'hypothèse soit vraie ou fausse, ça ne change pas grand-chose. C'est pas ça qui va permettre d'identifier le tueur. D'autant qu'un nouvel élément vient complexifier l'affaire. En mai 97, le commissaire Martin apprend en effet l'existence d'un crime non résolu qui s'est déroulé de l'autre côté de la frontière, en France, en janvier 96. La découverte dans un fleuve d'un bassin, celui d'une femme de 42 ans, disparue deux semaines auparavant, une certaine Carmelina Russo. Quand il épluche le dossier, le directeur d'enquête est frappé par des similitudes. Une femme seule, habituée du quartier de la gare de Mons, démembrée et jetée dans un cours d'eau, du côté des avocats de la famille de la victime, c'est la stupeur. Pourquoi ce crime qui a eu lieu en France intéresse-t-il les autorités belges 14 mois plus tard ?
Carmelina Russo a sans doute été la première victime du dépeceur. Son bassin a été retrouvé dans les eaux françaises de l'Escaut en janvier 96. Elle n'était ni prostituée ni droguée. Le fil rouge est le quartier de la gare de Mons qu'elle fréquentait assidûment. Aujourd'hui, l'avocat de la famille constate et déplore que les vérifications les plus sérieuses n'aient réellement commencé qu'en mai 97, date à laquelle le juge Pilette, en charge de l'enquête sur le dépeceur, hérite du dossier de Carmelina Russo.
Hélas, malgré cette nouvelle piste, l'enquête n'avance pas. En France, l'affaire est bien trop ancienne pour espérer trouver de nouveaux témoignages et les vérifications sur place ne donnent rien. Bientôt, l'été arrive et hormis quelques dénonciations, les fonctionnaires de Corpus pataugent. Et puis finalement, le 18 octobre 1997, 7 mois après la découverte des premiers sacs poubelles, tout change. Ce matin-là, au bord d'une rivière de Huyon, à quelques kilomètres du centre-ville de Mons, des enfants qui jouent déterrent un crâne pris dans les alluvions. Très vite, l'identité de la victime est découverte. Begonia Valencia, une femme qui n'a plus donné signe de vie depuis le mois de juillet. Même si le contexte de cette découverte est un peu différent des précédentes, les experts de la PJ relient immédiatement l'affaire aux 4 autres crimes, autrement dit. Le dépeceur a encore frappé.
Le juge Pilette et les enquêteurs de Corpus sont à la recherche d'indices nouveaux. C'est le long de ce chemin, dans un verger au pied du mont Panizel, que la tête de Begonia Valencia a été retrouvée.
Mais une fois de plus, l'enquête tourne court. 3 mois ont passé depuis la disparition de cette femme de 38 ans. Le crâne est trop abîmé pour connaître avec certitude les causes de la mort. Et les riverains ne peuvent pas apporter de témoignages précis. Alors ça recommence. Les policiers se trouvent à nouveau dans une impasse. Les jours défilent, puis les semaines. Dans le quartier de la gare, l'activité reprend peu à peu. Au commissariat, de nouveaux dossiers s'entassent sur les bureaux. Au tribunal, les moyens réclamés par le juge Pillette sont refusés par le parquet. Et peu à peu, l'activité de la cellule Corpus diminue. Dans les mois qui suivent, dépeceur de Mons quitte les premières pages des journaux. Pourtant, une poignée d'enquêteurs acharnés poursuivent le travail. Les innombrables courriers de dénonciation sont analysés et chaque piste est explorée, mais là encore, sans succès. Alors, avec les années, le criminel entre dans l'inconscient collectif montois. dans cette petite ville du sud-ouest de la Belgique, et plus particulièrement dans le quartier de la gare, l'énigmatique dépeceur continue de hanter les nuits des habitants. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, ils sont encore nombreux à se regarder de travers. Dans les ruelles des faubourgs, certains se demandent « Est-il encore vivant ? » Arrose-t-il ses plantes, là, tranquillement, le matin, en souriant à ses voisins, en toute impunité ?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dépeceur de Mons, notre invité Morgane Van Lerberg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Il est moins 5 », livre enquête coécrit avec Dany Corlana, paru en 2022 aux éditions Nombre 7. Alors, votre histoire personnelle est assez fascinante. Hein. Vous n'êtes ni journaliste, ni policier. Et pourtant, vous avez réalisé une enquête exhaustive et vous avez écrit un livre de près de 800 pages qui couvre toute l'affaire. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce travail de titan ?
Je dois vous avouer qu'en réalité, rien n'était prévu au départ. Hein. Si on m'avait dit que j'allais écrire un livre, je n'y aurais pas cru. Disons que c'est un enchaînement de rencontres. C'est fait l'effet boule de neige qui a fait que finalement, je me suis mis à écrire le livre. Et c'est justement Dany Corlana qui m'a soumis l'idée de le rédiger, puisque moi, je menais déjà des investigations. Et lui, il m'a dit pourquoi pas en faire un livre. Livre qui pourrait avoir justement une utilité et commémorer les 25 ans à l'époque de la sortie du livre.
Je vous ai demandé ce qui vous a motivé, certes, mais quel était l'objectif du livre ? J'imagine que ce n'était pas juste pour le plaisir d'écrire un livre, raconter une histoire, réelle et dramatique d'ailleurs.
Non, du tout. Il y avait trois réels objectifs en fait dans la sortie du livre. La première, c'était de rendre hommage aux victimes. Trop souvent, on les a dépeintes et il était question de remettre à leur place et dresser le portrait de chacune d'entre elles, car avant d'être des victimes, elles étaient des femmes avant toutes. Mmh. Ensuite, eh bien, le deuxième objectif, c'était un peu de désacraliser cette histoire, parce que finalement, on est arrivé à une histoire de mythe en mettant en avant le dépeceur, le fait qu'il ait pu jouer au jeu du chat à la souris ou les noms évocateurs des rues. En réalité, lorsqu'on met l'affaire à plat et qu'on regarde vraiment avec le recul nécessaire, on se rend compte qu'il en est rien et que l'histoire est bien plus crue et réelle. Et puis le troisième objectif qui pour moi était le principal finalement, c'était d'éveiller de nouveaux témoignages chez le lecteur, c'est-à-dire que j'étais convaincu que à l'époque il y a des gens qui ont dû voir ou entendre des choses mais qui ne pouvaient pas forcément comprendre ce qui s'y jouait. Mmh. Et grâce à des éléments dissimulés dans le livre, j'espérais recueillir des nouveaux témoignages. C'est ce qui a été le cas d'ailleurs. Je récoltais beaucoup de témoignages suite à la sortie du livre. Certains m'ont permis d'ouvrir de nouvelles portes, d'autres d'enfermer et puis aussi poursuivre mes investigations.
Et parmi ces témoignages générés par votre livre, lequel ou lesquels vous paraissent importants et de nature à faire avancer l'enquête après coup ?
Je travaille d'une manière assez spécifique et l'idée, c'est que chaque fois que j'ai une nouvelle information, j'en prends note, mais tant qu'elle n'est pas corroborée par une autre, elle reste en suspens. Et à partir du moment où j'ai plusieurs personnes qui me racontent la même chose, des mêmes faits, des mêmes personnes, des mêmes lieux, etc., à ce moment-là, elle prend forme et je me dis que finalement, c'est quelque chose sur lequel je peux travailler, investiguer. Parce que forcément, il y a des témoignages qui tiennent la route et d'autres, vous l'imaginez bien, qui sont tout à fait farfelus.
Alors, est-ce qu'il y a eu des suppléments d'infos, comme on dit, suppléments d'informations dans une enquête qui ne viennent pas de vous, mais qui sont arrivés entre 1997, l'année où on termine le récit, et plus tard.
Oui, bien sûr. La cellule Corpus a continué à travailler après 97, hein, et ça sans se démotiver un instant jusqu'au moment où elle a été dissoute. Il y a eu des faits hein, en 2003 du côté français, justement, non loin de Valenciennes. Il y a eu une affaire plus ou moins similaire, une affaire d'homicide de Janine Sopka. Tout à un moment, on a pu croire qu'elle aurait pu faire partie des victimes du dépeceur. La police française et belge se sont rencontrées. Ben, finalement, il n'en était pas du tout le cas. On a trouvé aussi un 2003, toujours dans la même région, en France, un crâne dans un sac d'une boucherie d'une chaîne belge. Et ce crâne, malheureusement, a été perdu dans les services de la SRPJ de Lille, donc on ne sera jamais analysé, alors que finalement, on sait que dans l'affaire qui nous concerne, il nous manque des crânes. Mmh. Et puis autour de 2007-2010, il y a eu quelques pistes qui ont été lancées par la presse, mais sans vraiment jamais tenir la route, même si ici, dernièrement, grâce aux investigations menées, de nouveaux éléments sont à prendre en compte, mais sur cela, je reste très discret.
Vous me parliez du portrait des victimes tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'on en a fait un portrait que des femmes un peu marginales qui traînent du côté de la gare. Est-ce que ça a été corroboré tout ça ou est-ce que c'est des portraits qui ne sont pas justes ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des femmes qui passaient plus ou moins du temps dans le quartier de la gare, elles étaient plus ou moins marginalisées, disons qu'elles avaient toutes des problèmes socio-affectifs à des degrés différents. À l'époque, dans la presse, du moins dans une certaine presse, on pouvait lire que c'était des prostituées, des droguées, des alcooliques, etc., et j'en passe. Et finalement, on était loin de cela, finalement, ça correspondait pas du tout au profil dressé des victimes. Après, bien entendu, c'est vrai que les lieux qu'elles fréquentaient, le quartier de la gare n'est pas le quartier le plus huppé de la ville de Mons, on s'entend bien, hein.
Est-on vraiment certain, alors la question est toute simple, j'imagine que la réponse est difficile, est-on vraiment certain qu'il n'y a qu'un seul et même auteur, qu'il n'y a qu'un dépeceur?
Personne ne peut répondre à cette question, bien entendu, hormis le dépeceur, mais on ne peut pas affirmer à l'heure actuelle qu'il s'agit d'un seul et unique même auteur. D'ailleurs, dans l'une des pistes sur laquelle je travaille depuis un certain bout de temps, elle s'orienterait vers deux personnages. Alors, on pourrait parler dès lors d'une complicité sans connaître vraiment le degré d'implication de chaque personnage. Mais d'une manière cartésienne, je dirais qu'effectivement, il est compliqué de répondre vraiment à cette question.
Et une autre question compliquée d'y répondre, peut-être est-il encore vivant?
Oui, tout à fait. Ça fait partie des possibilités.
Ben oui. Alors, dernière question, impossible. Est-ce qu'on le coincera un jour? Je veux dire, quel est le sentiment, notamment, parmi les enquêteurs sur ce point?
Alors, c'est difficile de répondre à la place des enquêteurs, je ne peux que supposer. J'ose imaginer qu'il doit y avoir une certaine frustration et beaucoup de déception de ne pas avoir bouclé l'affaire, parce que je suis convaincu que tous les enquêteurs à l'époque étaient vraiment impliqués, et cette histoire les a marqués à vie. Donc oui, le fait de ne pas pouvoir confondre l'auteur, ça doit être très compliqué pour un enquêteur. J'espère encore aujourd'hui qu'au niveau des autorités judiciaires, la résignation ne prendra pas définitivement, mais j'espère encore, oui, qu'on puisse le croiser un jour, sinon je ne serais pas ici à l'antenne pour répondre à vos questions. Je continuerai pas les investigations, c'est que j'y crois encore un minimum.
Et rétrospectivement, que peut-on dire de l'enquête de la police en 97? Je sais, la critique est facile, mais selon vous, y a-t-il eu des défaillances?
Alors, je ne parlerai pas de défaillance, non. Je pense qu'il faut resituer le contexte de l'époque. On est à la suite de l'affaire Dutroux, on est encore en plein dedans d'ailleurs. Les moyens humains, techniques, matériels sont encore réquisitionnés par ce dossier-là, parce qu'il n'est pas terminé. Donc forcément, c'est beaucoup plus compliqué. La PJ de Mons, à l'époque, est en manque cruel de moyens. Et puis, il y a un autre aspect. En janvier 96, il y a l'un des leurs qui va être froidement abattu dans les locaux de la PJ, ce qui va forcément ébranler tout le service, et ce, à juste titre. Et puis, ensuite... Le juge Pilette, lui, par contre, il a fait ce qu'il pouvait avec les moyens. Vous l'avez dit aussi, hein, entre guillemets, il a fait des demandes de renfort qui sont restées désespérément sans suite. Donc malheureusement, je pense que ça, c'est peut-être le seul bémol, c'est le manque de renfort. L'autre élément qui est vraiment en dehors de l'aspect judiciaire, c'est l'aspect plutôt chronologique des choses, il faut se le rappeler. L'affaire n'éclate qu'en mars 97, mais la série, elle, débute en janvier 96, soit un an plus tôt. Donc le ou les auteurs avaient une bonne longueur d'avance sur l'enquête à partir du moment où l'enquête a été déclenchée. Et ça, c'est pas à prendre en considération.
Alors, vous dites que vous allez continuer à enquêter, à fouiller. Quelles pistes vous voulez privilégier? C'est quoi vos axes à partir de maintenant?
C'est-à-dire que j'ai plusieurs pistes, dont une qui s'avère être intéressante. Disons qu'il y a un faisceau d'éléments qui s'ajoutent les uns après les autres et qui font que celle-ci donne de la crédibilité. Et donc forcément, je recherche à entendre des personnes qui ont pu connaître cette personne. J'essaie de croiser des informations. Alors c'est un travail de fourmi, certes, mais il n'y a que comme ça qu'on peut parvenir à quelque chose.
Vous avez rencontré des difficultés dans votre enquête, des gens qui ne voulaient pas parler? Ou est-ce que vous avez senti parfois que ça gênait un peu votre initiative?
Mais grosso modo, je crois que ça m'est arrivé quelques fois où effectivement je sentais que les personnes face à moi n'étaient pas à l'aise et du coup j'insistais pas. Le gros avantage que j'ai eu dans mon enquête et justement que la justice n'avait pas à l'époque, c'est moi j'avais le temps, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps dans le quartier de la gare de Mons à rencontrer des gens et c'est pas lors de la première rencontre, c'est lors de la deuxième, troisième, quatrième qu'une confiance s'est instaurée. Finalement après c'est les gens qui sont venus plutôt à moi, mais grâce à cela finalement ça a vraiment pris du temps. C'est des gens qui sont très fermés hermétiquement à la base. Mais à partir du moment où on gagne leur confiance, elles ont tendance à parler facilement. Et c'est ça qui m'a permis de collecter autant d'informations, dirais-je.
Parce qu'on en parle toujours de ces crimes à Mons?
On en parle, alors, plus de la même façon, c'est-à-dire autour d'un verre, sur un coin de comptoir, avec des gens qui étaient là à l'époque. Dès qu'il y a un crime de sang à Mons, forcément, le dépeceur remonte à la surface. Mais on en parle toujours, c'est vrai que c'est ancré dans cette ville, finalement, parce que c'est une histoire hors norme et même unique au monde. Mais maintenant, chez les plus jeunes, on est aussi entre légende urbaine et réalité.
Bien, puisqu'il nous reste deux minutes, je voudrais que vous me reparliez du quartier de la gare. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, bon, c'est pas le quartier le plus huppé, mais manifestement, c'est pas un quartier comme les autres. Expliquez-moi à quoi ça ressemble, ce qu'on y fait, quelle est l'ambiance.
C'est un quartier de gare, donc c'est un quartier qui est plutôt chaud, festif, lieu de plaisir dit malsain, donc prostitution, sex shop, bistrot, mais à l'époque des faits, il y avait vraiment beaucoup de bistrots et de restos, c'est-à-dire que il y a des restaurants qui dans lesquels on pouvait aller manger un steak frites salade à 3h du matin, il y a des bars qui ne fermaient pas, qui étaient ouverts 24h sur 24, et c'est sûr que tous les noctambules de la ville le fréquentaient. Alors il est connu pour être un milieu interlope, certes, néanmoins, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui vivaient dans le quartier à l'époque, ils vivaient où ils passaient du temps, et j'ai été au final moi-même étonné de ce qu'il en ressortait, c'est-à-dire que malgré tout il était considéré comme quartier spécial, mais les gens qui y vivaient à l'époque trouvaient que l'endroit était plutôt sympa, il y avait une bonne ambiance, tout le monde se connaissait, et finalement c'était pas très insécurisant. Alors certes, il y avait une petite criminalité, avant l'affaire du dépeceur les gens n'avaient pas peur de se balader dans le quartier de la gare, même si avec tout ce qu'on connaît d'un quartier chaud quoi.
Et concernant la ville de Mons, c'est pas une question touristique hein, que je vous pose, juste savoir quelle est cette ville, puisqu'elle était le théâtre de ces problèmes-là, d'un certain traumatisme.
Ouais, c'est une chouette petite ville finalement qui est agréable à visiter. Alors moi quand j'y vais, c'est difficile de la visiter parce que je suis touché par l'affaire et je suis plus du tout neutre, mais c'est chouette. C'est une ville étudiantine, donc il bouge beaucoup, il y a beaucoup d'événements de culture, etc. Et c'est vrai que même maintenant le quartier de la gare, alors la gare est toute nouvelle, a fait peau neuve, d'ailleurs ça fait polémique en Belgique, et le quartier de la gare aussi a été rénové, c'est plus du tout la même chose qu'à l'époque. Il est moins vivant qu'à l'époque, il est beaucoup plus froid qu'avant, mais voilà, il a changé. Il y a quelques traces du passé encore. D'ailleurs, moi, c'est dans ces petites ruelles dans lesquelles j'aime me plonger pour me replonger justement dans le dossier.
Oh, toute dernière chose, hein. La science a fait des progrès au service des enquêtes policières et judiciaires. Je pense à l'ADN. Bon. Ça a été utile pour l'enquête sur cette affaire-là. Qu'est-ce que ça a apporté à cette affaire-là?
Alors, c'est-à-dire que c'est vrai que les progrès scientifiques, au point de vue d'analyse criminelle, pourraient mettre en lumière de nouveaux éléments qui, à l'époque, ne pouvaient pas parler. Mmh. Ceci étant dit, le dossier reste quand même pauvre. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'éléments à travailler, mais il faut prendre en considération que dans cette affaire, il manque un élément clé, c'est-à-dire le lieu, le crime et le dépeçage des victimes a été effectué. Finalement, on a retrouvé que des sacs et les victimes ont disparu sans vraiment laisser de traces. Donc, c'est sur un lieu de crime où on le sait, on peut prélever le plus de prélèvements d'ailleurs. Oui. Donc forcément, dirais-je que oui, ça peut aider, mais c'est pas ce qui est le plus fort.
Bien
par
sûr.
Contre,
oui. On va finir là-dessus.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que hormis l'aspect scientifique, c'est aussi l'aspect en matière de connaissances sur les tueurs en série qui a fortement évolué depuis les années 90 à maintenant. Donc il nous permet d'avoir une autre vision des choses.
Bien, merci infiniment Morgan Wallnerberg. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dépeceur de Mons, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, à la technique, il y avait Ludovic Asselot.